Vous êtes toujours sur Radio PFM 99.9 pour cette journée sans ordi 3 et ça y est, enfin les jeunes prennent le pouvoir sur l'antenne sur PFM avec les jeunes du Radio Lab. Charlie, Clémence, Louise, ben salut.
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 Vous nous proposez un entretien avec Clotaire, lycéen du côté de Robespierre. À vous.
Oui, bonjour Clotaire.
Bonjour.
Tu as 18 ans et tu es élève en terminale donc au lycée Robespierre à Arras. On t'a aperçu à travers différents médias pour ton action sur l'IA. Tu es donc réalisé à ton lycée.
Oui, tout à fait.
Tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça consiste, en quoi, qu'est-ce que tu as fait
Alors par rapport à l'IA, en fait, j'ai tout d'abord cherché à comprendre comment les élèves utilisaient l'intelligence artificielle au sein du lycée. Parce qu'en fait, je me suis rapidement rendu compte que moi, mon travail personnel était mis en concurrence avec le travail réalisé par l'intelligence artificielle par d'autres élèves, notamment lors des remises de prix, en fait, lors des remises de mentions trimestrielles, qui se basent en fait en grande partie, alors pas seulement, mais en grande partie sur les moyennes générales, et les moyennes générales étaient fortement influencées par le travail de l'intelligence artificielle, enfin par l'aide de l'intelligence artificielle. Donc j'ai cherché à comprendre pourquoi cette situation en fait, et comment l'intelligence artificielle était entrée dans la vie des élèves, et pourquoi moi, en tant que simple élève lambda qui travaille normalement par mes propres moyens, j'étais embêté par ça. Et donc je suis allé au contact des élèves, on a eu des moments de concertation avec mes délégués, représentants des conseils de la vie du lycée. Et voilà un peu comment s'est construit tout ça, et il a fallu aller ensuite plus loin, d'où ma lettre ouverte que j'ai répandue à l'ensemble des établissements de l'Arageois.
Et donc comment ont réagi tes camarades après avoir écrit cette lettre ?
Alors après l'écriture de cette lettre, alors en fait, tout l'enjeu de cette lettre, ça a été de dénoncer et en même temps de solutionner, mais sans accabler. Parce qu'en fait, les élèves qui utilisent l'intelligence artificielle l'utilisent parce qu'elle est là, et parce que c'est intéressant de l'utiliser pour avoir de meilleures notes, tout simplement. Mais ce n'était pas eux qu'il fallait aller accuser, parce qu'au contraire, moi je pense qu'il faut avancer avec l'IA, il faut construire avec l'IA. L'objet de cette lettre, c'était pas d'écarter l'IA, mais c'était de dénoncer une situation problématique qui est qu'on met au même niveau le travail de l'IA et le travail d'un élève. Donc il a fallu dénoncer ça sans accabler l'élève qui l'utilise, mais en même temps, donc voilà. Donc c'était très compliqué. Donc la réaction des élèves par rapport à ça, ça a été beaucoup de compréhension en fait, parce que eux, les difficultés que je rencontre, moi, ils les rencontrent également, y compris ceux qui utilisent l'intelligence artificielle. Ils sont conscients de ce qu'ils font, enfin voilà. Donc ça a été plutôt bien accueilli. Maintenant, moi, je suis dans un lycée général. Donc on a réfléchi autour du sujet en fait tous ensemble plutôt que se monter les uns contre les autres. Maintenant il y a d'autres établissements avec d'autres profils d'élèves dans lesquels on peut pas tout à fait fonctionner comme ça, donc ça aurait peut-être été accueilli différemment dans d'autres établissements, je ne sais pas, mais en tout cas au sein de mon lycée ça s'est plutôt très bien passé.
Et as-tu eu des retours de la part de l'équipe pédagogique ou même de l'administration suite à ta lettre?
Alors des retours, oui, parce que comme c'était une lettre ouverte, s'il n'y avait pas eu de réponse, ben, tout le monde était au courant en fait que cette lettre avait été remise. Donc ça a été très bien accueilli par mon proviseur, qui a pris les choses en main, qui m'a convoqué au conseil pédagogique, hein, qui normalement réunit uniquement les professeurs, afin d'essayer de trouver des solutions et de réfléchir à tout ça en fait. Donc on a d'abord réfléchi avec les élèves dans des réunions structurées, hein, du conseil de vie lycéenne, grâce à mon proviseur, parce que moi j'étais pas élu en fait, il m'a invité à ces sujets-là. Mais en fait, on s'est rendu compte, et on se rend encore compte là, qu'à l'échelle du lycée, on peut faire très peu de choses. On peut modifier en fait des lignes de règlement, mais tant que c'est pas quelque chose de globalisé, et pour une raison très simple, quand bien même un établissement trouve une solution parfaite, qui éradique la problématique de l'intelligence artificielle, en fait, l'intelligence artificielle, elle vient gonfler les moyennes. Donc en fait, elle vient gonfler... Il y a quand même 40% de contrôle continu dans le bac. Potentiellement, elle vient gonfler les 40% de bac de beaucoup d'élèves dans l'établissement. Si on trouve la solution miracle, on verrait en fait les notes diminuer forcément. Et donc, les points des établissements, les moyennes de bac, d'obtention du bac, diminuer également. Donc en fait, il n'y a aucun établissement qui a la réelle volonté de trouver la solution miracle. Donc si nous, seulement nous, nous nous concentrons là-dessus et nous trouvons des solutions, en fait, on est perdant. Enfin, le chef d'établissement et son établissement sont perdants. Donc c'est extrêmement compliqué, et il faut convaincre, il faut voilà, mais et de toute façon on est bloqué également par l'éducation nationale qui, au moment où j'ai écrit la lettre en début d'année scolaire, était vraiment à la masse, alors je prends des guillemets pour dire ça, mais par rapport au sujet, parce qu'il n'y avait pas eu de communication ni aux élèves ni aux professeurs de façon conséquente sur le sujet.
Et comment les professeurs se sont adaptés à l'intelligence artificielle par exemple? Est-ce qu'ils ont supprimé les DM au profit de devoirs surveillés?
Alors oui, c'est la première chose qu'ils ont faite avant même que j'ai écrit cette lettre, c'est supprimer les DM. Alors là, c'est une problématique parce que les devoirs maison, c'est aussi une manière d'encourager un élève à s'exercer à la maison, voilà. Mais oui, la première chose qu'ils ont fait, c'est supprimer les DM. Donc, mais c'est à peu près la seule chose qu'ils ont fait et qu'ils peuvent faire. Le problème, c'est que beaucoup de professeurs pensent voir l'intelligence artificielle alors qu'ils ne la voient pas toujours. Ça, c'est une autre problématique. C'est-à-dire que quand on discute avec les... Enfin, quand moi, au début d'année scolaire, j'ai discuté avec les professeurs, et en fin d'année scolaire précédente, ils me disaient « Mais tu sais, l'intelligence artificielle, nous, on la voit. On connaît nos élèves, on sait faire la distinction entre quelque chose qui est fait par un élève, quelque chose qui n'est pas fait par un élève. Le problème, c'est que quand j'ai discuté avec les élèves, je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. » Et que et ces élèves me disaient, ben non, regarde, moi j'ai rendu ce travail, et puis j'ai eu la note avec 5 points de plus que ce que j'aurais eu si je l'avais fait par moi-même, et le professeur n'a rien vu. Sauf que c'est pas ça sur un élève, c'est ça sur plusieurs élèves d'une classe. Moi, on était environ un tiers d'une classe qui pouvait procéder ainsi. Et l'autre problématique, c'est que enlever les DM, ça solutionne... Voilà... l'usage de l'intelligence artificielle à la maison, mais en fait ça ne solutionne pas l'usage de l'intelligence artificielle dans les classes pendant les DS. Parce que même avec un téléphone interdit, l'intelligence artificielle est utilisée dans les classes pendant les DS, et c'est ça le réel problème en fait.
C'est-à-dire que les gens sortent leur portable pendant les DS, c'est ça?
Oui,
manière un peu cachée, quoi, c'est ça?
Ouais, tout à fait. Ben, en fait, c'est qu'il y a un professeur pour 35 élèves, la seule chose qu'a les... Avec une anti-sèche, l'élève il a des mots-clés, il a des idées, il a des choses qu'il n'a pas apprises par cœur, il a des dates. Mais enfin, il doit quand même construire sa copie. S'il recopie son anti-sèche telle qu'elle est dans sa trousse, ça ne donnera rien de probant. Alors qu'avec l'intelligence artificielle, sa seule tâche pendant le DS, c'est de recopier ce que lui a donné son outil, en fait. Donc sa seule tâche, c'est de surveiller le professeur. Afin de ne pas être pris, mais enfin ça c'est pas compliqué, quand il y a 35 élèves à surveiller, et que les professeurs ne sont pas toujours dans une démarche de surveillance active, c'est-à-dire qu'ils ne se déplacent pas toujours dans la classe, ou que les... voilà. Et d'autant que les DS en contrôle continu ne sont pas effectués selon les mêmes modalités que le bac, c'est-à-dire que les trousses sont sur les tables, les sacs ne sont pas dans le fond de la salle, donc c'est encore plus difficile à surveiller.
Et que souhaiterais-tu voir en place pour éviter ce type de débordement?
Alors moi j'ai mis plusieurs solutions, dont la mise en place de boîtes à smartphones, hein, comme ça a depuis été, ça a commencé à être mis en place, hein, dans certains établissements. C'est vrai que moi je pense que c'est une bonne solution. Excusez-moi. Maintenant, c'est vrai que mon proviseur n'était pas tout à fait... En discutant avec l'équipe pédagogique, ça ouvre d'autres problèmes malheureusement. Comment est-ce qu'on après on retrouve le téléphone, enfin s'il y a un vol de smartphone après, et si un élève a deux smartphones, qu'il en met un dans la boîte et qu'il en garde un sur lui, et les montres connectées, qu'est-ce qu'on en fait, et qui va prendre le temps de surveiller les smartphones, enfin de faire mettre les élèves leur smartphone dans les boîtes, est-ce que c'est le travail du professeur, est-ce qu'on a le temps pour faire ça, ça soulève d'autres questions en fait. Maintenant, une autre solution, c'est les détecteurs d'IA. Alors ça, pour moi, il faudrait investir là-dedans. Malheureusement, ça marche très bien, d'ailleurs. Hein. Il y a des sites qui fonctionnent très très bien, payants ou pas. Et notre établissement, c'est une piste qu'on explore sérieusement, enfin que notre proviseur explore sérieusement. Maintenant, le problème, c'est que les copies ne sont pas... Elles sont écrites à la main encore, elles sont manuscrites, elles ne sont pas tapées à l'ordinateur. Donc ça voudrait dire que les professeurs doivent recopier à la main une partie du devoir. Des professeurs sont tout à fait OK pour le faire, d'autres non, ils considèrent que c'est pas leur travail, donc, et c'est légitime en même temps, donc c'est un sujet extrêmement complexe, et les solutions apportées doivent être générales. Moi, la solution qui me semble la plus probante, c'est de refonder les programmes scolaires à la base en incluant l'intelligence artificielle dans les programmes pour travailler avec.
Clémence ?
Et donc, d'après toi, comment on pourrait faire en sorte que l'IA soit un outil pour progresser plutôt qu'un moyen pour tricher ?
C'est ce que je viens de dire en fait. Pour moi, il faudrait refonder les programmes. Il faudrait travailler avec l'intelligence artificielle, expliquer comment elle fonctionne, apprendre aux élèves à l'utiliser tout en préservant l'esprit critique. Là on est en fait en train de jouer au chat et à la souris, et dans toutes les solutions qu'on essaie de trouver, la souris gagne tout le temps. Donc il faudrait en fait repartir à zéro, se dire maintenant on a quelque chose d'extrêmement puissant entre les mains des élèves, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on continue à essayer de le combattre maladroitement en perdant du temps, de l'énergie et de l'argent? Ou est-ce que non, on refonde nos programmes scolaires et enfin on cherche des propositions adéquates et on intègre l'intelligence artificielle, on intègre des heures d'apprentissage d'intelligence artificielle. Je pense que c'est ce qui est en train de se faire d'ailleurs au ministère, hein, les cours d'intelligence artificielle pour les élèves, je crois que c'est en train de se mettre en place tout doucement.
Et enfin, question sur ton expérience, comment est-ce que tu as vécu la médiatisation de ton projet et ton action ?
Alors, la médiatisation... c'est moi qui l'ai voulu dans un premier temps, alors sans grand espoir de réussite ou de voilà. J'avais contacté simplement la Voix du Nord pour en fait aller au-delà de mon simple lycée, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, c'est une problématique globalisée. Il ne s'agit pas de stigmatiser, c'est pas quelque chose qui concerne le lycée Robespierre en particulier. Et en même temps, de toute façon, pour trouver des solutions, il fallait aller plus loin, il fallait toucher plus. Il fallait surtout des concertations. Moi, je pense qu'il faut des concertations générales sur le sujet. C'est pour ça que j'ai ouvert la voie au débat et à la discussion, parce qu'il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Donc la médiatisation, elle s'est faite comme ça. Et après, elle a été un peu plus particulière, parce que ça a fait un peu boule de neige. Et puis je me suis retrouvé avec une journaliste à l'entrée du lycée. Et là, c'était un peu plus rocambolesque, mais en même temps, c'était marrant. Je me suis prêté au jeu et c'est extrêmement intéressant, et l'effet escompté était là, puisque ça a eu de la visibilité. Moi, mon établissement a continué à faire ce qu'il pouvait de son côté. De l'autre, ça a ouvert des discussions dans les familles. Finalement, on s'est rendu compte que la presse écrite fonctionnait encore très bien, parce que quand le grand-parent voit dans son petit journal l'information passée, il voit le mot lycée, il transmet à sa fille, qui transmet elle-même à sa fille, qui est dans le lycée. Et voilà, donc en fait, ça marche encore très très bien, et ça m'a aussi conforté et inscrit dans cet esprit-là de communication et d'échange plus largement que ce que je pouvais faire dans le simple lycée, en fait.
Alors, on découvre un peu l'ampleur du problème, parce que tu parles quand même d'un tiers de la classe, et du coup, je m'adresse à l'ensemble ici, vous, des lycéens, vous êtes tous au lycée, à différents lycées d'Arras. Est-ce que vous constatez aussi que beaucoup de vos camarades utilisent l'intelligence artificielle, et quel problème ça pose pour vous, pour eux aussi dans leur scolarité?
Charlie, moi par exemple, je suis au lycée Guimolet, donc je sais qu'il y a quelques élèves pendant dans mes spécialités qui utilisent l'intelligence artificielle plus pour faire du travail préparatoire pour passer en classe. Par exemple, dans une de mes spécialités, on devait passer un oral. Il y a des personnes qui ont utilisé l'IA pour préparer leur discours, et après ils ont modifié sur l'IA, mais ils se basent uniquement sur ça et mieux sur des recherches à net. Donc moi, je trouve ça dommage. Après, je remarque pas. Moi, je trouve que ça va dans ma classe généralement. Je constate pas, en tout cas, beaucoup de personnes qui utilisent l'IA. Mais...
Louise ?
Moi, dans ma classe, je constate pas d'utilisation d'IA en cours directement. Durant les DS, en général, personne ne sort son téléphone. Par contre, je sais que tout ce qui va concerner les devoirs maison, là, oui, effectivement, on a plus d'élèves qui l'utilisent. Mais c'est pas non plus un cas qui se généralise à l'ensemble de la classe. Je pense que ça doit être les 3-4 élèves. De même pour les travaux, je sais que des fois, par exemple, si on a une tâche qui nous est donnée par un professeur et qu'elle doit s'absenter en attendant, en anglais par exemple, je sais qu'on a des élèves qui vont utiliser l'IA pour pouvoir répondre parce qu'il y a un doute ou autre. Mais en tout cas, non, en classe, en DS, j'ai pas observé d'utilisation de téléphone.
Clémence ?
Moi, je suis aussi à Guimolet, c'est un peu pareil en classe, j'ai jamais vu ça non plus, d'utilisation de l'IA, mais par contre, c'est vrai que pour ce qui est les oraux ou les DM maison, je connais pas mal de personnes qui utilisent l'IA, et c'est vrai que c'est plutôt injuste, vu que nous, on fait l'effort de vraiment réfléchir sur notre travail, et eux, finalement, ils ont quand même un gros outil à côté qui fait que ça, c'est quand même, c'est pas très égalitaire du coup à la fin. Mais bon, il n'y a pas non plus énormément de personnes qui l'utilisent, je trouve, ça va encore.
Sur les problèmes que ça pose, ben justement, c'est un peu, ça, est-ce que ça rend les élèves plus paresseux? Est-ce que du coup leur pensée est moins structurée? Vous constatez ce déficit de réflexion? Comment tu vois les choses peut-être, Clotaire?
Pas encore. Je pense pas que ça change. Parce qu'en fait, ce sont les générations qui sont au lycée actuellement. C'est 2007, 2008, 2009. Ce sont des élèves qui ont encore. Là, je pense que c'est. En fait, on est à la passerelle. Ce sont les derniers élèves qui ont eu leurs premières années sans téléphone portable, sans numérique, sans internet, sans écran plat. Voilà. Là, il y a le tournant, en fait. C'est-à-dire que maintenant, les élèves qui sont nés en 2014, 2015, 2016, 2017, qui arrivent dans les collèges, qui vont arriver plus tard dans les lycées. Eux, par contre, ils n'ont pas eu le temps de former leur esprit critique. Enfin, nous, on a fait tout notre collège sans ces outils-là, sans intelligence artificielle. On l'a découvert au lycée. Donc, même si certains élèves travaillent avec l'IA de façon construite, d'autres remplacent leur travail par le travail de l'intelligence artificielle. Mais dans les deux cas, ils ont encore tout leur passé du collège sans ces outils-là. La problématique, elle va se produire vraiment dans 4-5 ans. Mais en fait, il faut trouver les solutions maintenant. Pour éviter que... En fait, c'est le moment où il ne faut pas être laxiste. C'est pas le moment où il faut dire oui, on laisse passer parce que ça va. Parce que sinon, les élèves là qui arrivent dans les collèges, qui dès la 6e sont avec le portable et les IA, feront leur collège comme ça. On va encore être plus laxiste sur l'obtention du brevet parce qu'on n'aura pas le choix, parce qu'ils n'auront plus leur esprit critique qu'ils développaient avant avec ces mêmes programmes scolaires. Et au lycée, ce sera encore pire. Si le collège là lâche un peu la grappe ou du moins ne restreint pas l'utilisation de l'IA, le lycée n'aura pas d'autre choix que d'être plus laxiste par la suite aussi. Donc c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut prendre les choses au sérieux, qu'il faut les poser, qu'il faut surtout changer les modalités d'évaluation. On ne peut plus utiliser les mêmes modalités d'évaluation. Il faut maintenant utiliser des systèmes par compétences ou des oraux, en fait. Parce que c'est là, le seul moyen de vérifier la capacité intellectuelle d'un élève et son savoir, c'est un oral. C'est là qu'on voit ce qu'il est capable de produire par lui-même, comment, et voilà. C'est quand on a un professeur face à un ou plusieurs élèves en groupe et un échange. Et là, on voit tout de suite ce que l'élève est capable de produire.
Ce qui est dommage, c'est qu'on a peut-être moins de... On laisse peut-être moins place à la créativité avec l'intelligence artificielle parce que c'est ce que... Je rejoins Clotaire sur ce point-là. On va moins pousser les élèves peut-être à réfléchir et ils vont aller vers la facilité. Donc c'est un peu le piège de l'IA sur ce point, je pense.
Sur les oraux, vous êtes d'accord? L'oral, c'est forcément le meilleur moyen d'évaluer le travail de quelqu'un. Bon, moi, quand j'étais au lycée, j'étais vraiment pas très à l'aise à l'oral et je sais pas. Je pense que j'aurais été assez catastrophique, mais comment vous voyez les choses, vous?
Ouais, moi, je suis moyennement d'accord parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont pas du tout à l'aise à l'oral et pour qui l'écrit est vraiment le moyen de montrer de ce dont ils sont capables. Donc, en vrai, l'oral, pour certains, ça peut être utile, mais pour d'autres, moi ou mes amis, on n'est pas du tout à l'aise à l'oral. Et l'écrit, c'est quand même notre moyen de vraiment montrer ce dont on est capable. Du coup, je pense que ça dépend des élèves. Mais,
ouais, à la radio, t'es pas mal à l'oral, hein, ça va.
Oui, ça va, mais c'est devant un micro, c'est pas pareil que devant un professeur, devant une classe, c'est autre chose.
Alors peut-être aussi, j'ai encore une question, c'est en fait finalement, est-ce que dans ce que tu nous dis, est-ce que tu remets pas aussi en cause le système de notation? Mais est-ce qu'on est obligé d'avoir des notes? Est-ce qu'on est obligé d'organiser cette compétition généralisée dès l'enfance, en fait? C'est un peu ça aussi la question qu'on peut tirer de cette...
Oui,
de
tout ça. À fait. Excusez-moi. Ce qu'on peut tirer de tout ça, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire du bricolage, on ne peut pas changer les modalités d'évaluation sans changer la façon d'apprendre. On est en train de faire des retouches un peu à droite, à gauche, en disant, un peu comme ce qu'on fait avec les mathématiques, il faut remettre une épreuve en première parce que ça... Voilà, Mais enfin, c'est le problème dans tous les domaines, c'est qu'on fait du racolage, enfin dans tous les domaines dans l'éducation nationale, c'est qu'on fait du racolage sur un peu tous les sujets. On fait un test, puis ça ne marche pas, donc on refait autre chose, voilà. Mais le problème, c'est que ça se contredit. À chaque fois qu'on cherche une solution, notre solution redébouche sur 10 problèmes. Donc en fait, c'est parce que le système manque de cohérence au bout du compte. on a un nouvel outil, il y a un nouvel enjeu, il faut le reconsidérer à part entière. Il faut revoir comment on apprend. Et comment on évalue. on peut pas faire l'un sans l'autre, voilà, sinon on aura toujours 10 problèmes derrière.
Clotaire, merci. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions. Et puis, ben, alors là, tu passes quoi, le bac, c'est ça
ou... Bah, donc là, je passe le bac, oui. Puis après, je vais aller voir comment ça se passe dans les universités et dans les facultés de France. On va voir. Je pense qu'ils sont un peu plus en avance là-dessus parce qu'ils sont obligés, en fait. Ils sont un peu plus strict. Enfin, voilà. Ils ont d'autres modalités, d'autres façons de fonctionner. Et ils ont surtout, eux, plus de moyens pour utiliser notamment les logiciels de détection. Hein. C'est ça que j'ai appris aussi dans mes recherches. Donc, voilà.
Tu vas vers le numérique, l'informatique ou
non,
pas du tout?
Non, bah, pas du tout, mais je vais aller dans le droit, en fait. Donc d'accord. Ça se rejoint quand même.
Ça marche. Ben, merci Clotaire. Et puis, on garde l'antenne sur Radio PFM pour la journée sans ordi. Une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après.
Journée, je rentre chez moi, mon premier geste, allumer la télé. Je vois qu'il y a pas mal de programmes indigestes. Nico s'a mis la veste, c'est la félicité. Voyons, je fais la cité pourrie où les flics ne vont plus. Et puis sans transition, le quotidien moisi d'une famille de vaincus. Je vois que tu tiques quand je te dis qu'ainsi j'ai vaincu. Pourtant mon stress est très sévère parce que mon taf me casse le cul. Et si je t'adresse sévère, c'est parce que je sais que tu l'as vécu. Après deux pompes de tristesse en perfuse, y'a un moment où j'en peux plus, alors je change d'écran. Et faut avouer que je suis pas déçu, mon excitation monte d'un cran. Tout le monde a posté son dîner sur Instagram. Moi y'a mon œuf qui crame, y'a rien à foutre sur cette connerie de Facebook. Y'a 1000 nouvelles entrées, toujours pas d'issue. Donc je reste là, regarder défiler des MC affolants, je leur trouve tant de niveaux, mais leur rime riche pour penser pauvre nous tue. Parce que le premier qui pense il se fait doubler, la vie continue. Nos écrans sont de plus en plus plats, donc leur contenu de plus en plus mince. C'est logique, nos cerveaux sont de plus en plus larges, donc nos idées de plus en plus pinces. C'est pratique, ça donne de l'air à nos élites.
Ouais, ben ouais. Pendant que les foules militent contre la guerre et le réchauffement climatique, enfonce des portes ouvertes avec un élan magnifique.
Tu ne devrais pas croire tout ce que la télé t'apprend. J'ai étalé de l'encre noire pour te flatter les tympans. Tu es tombé dans l'entonnoir qui nous mène à leur guet-apens. J'apprends à détendre de mémoire celui qui est à cran. J'écris au gré du vent, je crée du franc, c'est du grand. On est fier de faire du son édifiant. Mais tu nous juges au compteur depuis que tu nous écoutes sur écran. Avec des enceintes de mauvaise qualité, ça fait pas rire mes compères. Depuis que tu perds l'oreille et fais les gros yeux, y'a moins de bons acteurs que de musicalité. Celui qu'a l'idée n'est pas toujours celui qu'a l'idée. Ça fait du pige qu'on aurait pu se passer de Johnny Hallyday ou de Francis Lalanne, de la gaffe ou de Pardieu, de la 6 à la 1 que l'on agrafe à nos perdus. Faudrait que vous perdiez l'habitude de fouiller ce merdier. Même si je sais que c'est pas impossible que vous vous emmerdiez, profitez-en pour jacter la voisine ou l'épicier du coin. Effleurez du doigt ce que vous visez du poing. Venez nous voir en concert au lieu d'attendre un album. Vous ne likez que la crème, nous on a l'album.
Nos écrans sont de plus en plus plats, donc leur contenu de plus en plus mince. C'est logique, nos cerveaux sont de plus en plus larges, donc nos idées de plus en plus pinces. C'est pratique, ça donne de l'air à nos élites.
Ouais, ben ouais.
Pendant que les foules militent contre la guerre et le réchauffement climatique,
enfonce des portes ouvertes avec un élan magnifique.
La télé c'est comme le chewing-gum de ta rétine. Rétine. Ouais, la télé c'est comme le chewing-gum de ta rétine. Rétine.
Oh. Ouais. Les présentateurs sont des gens détestables.
Ça va bientôt
faire péter un TPS câble.
Vas-y, Chico.
Décolle une balle dans la tête de ces baltringues. Je te rentre mes faces dans le crâne comme une pub subliminale. Mentalité plate pour la plupart. Photo, je crève l'écran comme un coup de batte dans ta lucarne. Je me demande si le bonheur c'est pas d'être aveugle. Crevez-moi les yeux, je verrai pas tous ces connards qui se foutent de ma gueule. Les ch'tis à Las Vegas, et puis quoi encore? La réalité de la télé c'est de changer de la merde en or. Te propose un mode de vie que tu peux pas te payer.
Serre nos cerveaux sur un plateau.
Déjà 8 juin dans le cendrier. HTHT, ma THD. Espèce de mytho, t'as jamais regardé Arte. Tu te consumes et fais tourner le manège. Il fait froid derrière l'écran et ça finit souvent dans la neige.